d'ensemble de l'actualité. Jusqu'à 15h, vous écoutez Solide comme le rock. Solide comme le rock. Voici Rock Cholette.
Mais là, on peut pas juste parler de voyage dans... puis de vacances dans cette émission-là. Il y a quand même un petit bout sérieux. Et je me tourne vers l'homme le plus sérieux que je connaisse, Carl Bélanger. Moi. Bonjour, c'est Carl. Moi.
Ça va bien, Rock?
Un homme sérieux.
C'est sûr. Écoute, il n'est pas plus sérieux que moi.
Oui, t'as raison. Beaucoup d'actualités, notamment fédérales, internationales. Il y a la mise à jour économique au Québec. Mais on va commencer avec M. Trudeau, qui était dans ta principauté aujourd'hui.
Ben oui, il était en visite à Chelsea, hein, au Biscotti, où il faisait la promotion de la subvention salariale. C'est un programme que Biscotti a utilisé pour ses employés. Donc, Justin Trudeau qui vantait ce programme et encourageait les employeurs, encore une fois, à l'utiliser. Si le message passe pas maintenant, je sais pas si aujourd'hui ça va aider plus, là, mais disons que on continue de répéter que la subvention salariale est là pour les employeurs et on veut que les gens quittent la PCU et se dirigent vers des emplois. Mais si les emplois, l'économie est pas là, c'est bien beau, mais les employeurs n'ouvrent pas nécessairement leurs portes tous au même rythme. Alors, il y a des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas en profiter.
Oui, mais attends une minute, là. C'est parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, là. La subvention salariale, on va expliquer ça aux gens, là. Puis corrige-moi, là, ou aide-moi. Alors, subvention salariale, c'est essentiellement Ottawa qui dit aux entreprises, reprenez les gens sur le payroll. Et nous, on va financer 75 % du salaire jusqu'à un maximum, mettons, de 55 000 par année. Deux choses, ce que je comprends, puis peut-être je suis wrong, mais un, c'est pas parce que tu le reprends sur ton payroll qu'il faut qu'il travaille.
Exact.
Et deux, là, je suis plus certain pas en tout. Est-ce que si je le reprends sur mon payroll puis il reçoit 75 % de son salaire provenant du fédéral, est-ce que l'employeur est obligé de payer le 25 % restant?
Non. Il n'y a aucune obligation en ce sens-là. Le fédéral encourage.
Sauf s'il travaille.
Encore là, tout dépend de la baisse des revenus de l'employeur. Et il y a plusieurs cas où les employeurs ont dit, malheureusement, je ne suis pas en mesure de te payer ton plein salaire. Alors, on peut te faire rentrer grâce à la subvention salariale. Tu auras 75 %. Mais là, c'est là où on entre, là, si on a des conventions collectives ou pas, qu'est-ce qui est éligible ou pas. Il y a beaucoup de zones grises à ce niveau-là, au niveau de l'application de ça, mais il n'y a pas d'obligation. Le fédéral demande aux employeurs de pas en profiter pour se prendre une cote supplémentaire de 25 % sur le dos des employés. Alors, est-ce qu'il y aura des vérifications qui seront faites? J'ai des doutes. Trudeau, au début, disait « on va s'assurer que les gens profitent pas du système », mais ça, pour vérifier ça, ça prend des gens qui travaillent puis qui vont inspecter puis qui font des vérifications. Jusqu'à ce maintenant, là, je pense pas que ça se fasse.
Ouais. Un petit peu compliqué. Puis c'est pour ça qu'ils tentent de relancer ça, parce que ça a pas vraiment fonctionné. Puis on en a parlé, toi et moi. Moi, j'ai un grand malaise là, avec une mesure sociale d'accompagnement, que je l'appelle la subvention salariale, que je l'appelle l'aide sociale ou que je l'appelle la PCU, je m'en sac. C'est de l'aide gouvernementale, donc payée par le monde qui paye des impôts. Alors, ça vient de ce poche-là. En théorie, si tu rencontres les critères, tu devrais être admissible. Et là, le problème avec la mesure sociale de M. Trudeau dans ce cas-là particulièrement, c'est qu'il peut avoir de l'argent disponible, tu peux être éligible, mais ça dépend du bon vouloir du secteur privé si tu as le droit à une mesure sociale gouvernementale. Et c'est là que ça ne marche pas.
Oui, parce que le privé, évidemment, c'est lui qui, en bout de ligne, décide. Et par exemple, prenons Air Canada, qui au début avait mis à pied ses employés. Après l'annonce du gouvernement de la subvention salariale, a décidé de réembaucher des employés. Et après quelques semaines, a décidé, ben finalement, ça marche pas plus. Fait qu'on met tout le monde dehors.
C'est ça.
Alors, on est au bon vouloir, évidemment, de l'entreprise privée. D'où les appels nombreux parmi les gens, les académiques, certains politiciens d'ailleurs, qui disaient, on devrait aller avec un programme universel pour couvrir tout le monde, pour éviter ce jeu de yo-yo, pour éviter que ce soit des tierces parties, hein, un middleman qui décide si oui ou non tu auras cette subvention salariale.
Ouais. Mais là, est-ce que tu peux me dire pourquoi il était au Biscotti?
Pourquoi en particulier?
Ouais.
comme je te dis, l'objectif, c'était de promouvoir ça. La propriétaire, Emmanuel, qui est bien connue ici, Emmanuela, qui est bien connue ici à Chelsea, notamment propriétaire du Chelsea Pub, elle profite de ces mesures-là, profite également du fameux programme pour les loyers commerciaux.
Ça, c'est intéressant.
Ouais.
Non, mais c'est parce que M. Trudeau dit... D'ailleurs... Manuela a utilisé le programme d'aide aux loyers commerciaux, mais tout le monde pense qu'elle est propriétaire de l'immeuble.
Ouais, est-ce que c'est deux compagnies
c'est
différentes?
C'est ça. Fait que là, elle a utilisé, ça voudrait dire que, là, M. Trudeau vient d'ouvrir toute une canne de verre. Ça veut dire qu'elle aurait utilisé la subvention au loyer pour se payer elle-même.
Écoute, moi, je connais pas le montage financier. Ben non, c'est ça. Je fais pas d'allégation, évidemment, mais compagnie A, qui s'occupe de la gestion immobilière, loue à la compagnie B, qui exploite le restaurant.
Ben oui, mais si je suis propriétaire des deux.
Et t'es propriétaire des deux. Ben oui, mais... c'est ça. Oui, effectivement. Effectivement. Et c'est, encore une fois, c'est le propriétaire de la gestion immobilière qui décide si l'exploitant peut appliquer sur le programme parce que...
Si ça, c'est permis.
Il y a des clauses, là, ouais.
Si ça, c'est permis.
Ben, c'est là où le concept de personne morale entre en ligne de compte. Parce que les compagnies, peu importe le domaine, ce sont des personnes morales.
Je comprends.
Est-ce qu'il y a... Mais je comprends tout à fait le problème et le conflit d'intérêts apparent. Et je ne dis pas que c'est le cas dans le cas ici à Chelsea.
Non.
Mais c'est pas impossible que ça se fasse, évidemment.
J'ai sursauté, moi. Quand M. Trudeau a dit ça, peut-être qu'il s'est trompé, là. Peut-être qu'il a pris ça en exemple, tu sais, puis qu'il a erré, puis c'est pas le cas du tout, là. Moi non plus, là. Je suis pas en train de faire un procès d'intention, mais simplement dire, oh boy, il me semble que ça soulève beaucoup de questions, ce que M. Trudeau a expliqué là, quand on sait que... Ben, quand on sait qu'on pense que c'est la même personne... Peut-être pas la même compagnie, mais c'est la même personne qui est propriétaire des deux.
Mais quand tu regardes les critères, là, clairement, une compagnie A peut louer une compagnie B, soumettre sa demande à la subvention pour les loyers commerciaux et obtient l'aide du gouvernement. Moi, je pense que selon les règles actuelles, là, c'est possible et c'est loin d'être impossible que ça se fasse, en fait.
Fait que ça veut dire qu'on pénalise quelqu'un qui décide d'acheter, rénover, prendre une hypothèque, puis mettre son commerce dedans. Mais lui, il n'a pas eu l'idée de diviser les compagnies en deux. Fait que là, on est en train de pénaliser. En tout cas, là, on arrête ça. OK. Bon. Alors, M. Trudeau était là. Peut-être parce que c'était plus facile. Il était-tu en chemin vers le chalet ou?
J'ai l'impression qu'il allait passer peut-être la fin de semaine à sa résidence secondaire, devenue primaire.
Oui.
Devenue primaire, se rappelle. C'est compliqué, mais bon, il va faire beau et chaud dans la principauté de Chelsea, alors on va sûrement en profiter.
Ouais, c'est ça. Pas si à l'OM, mais il y a une subvention.
C'est pas sûr.
OK. Là, Carl, c'est bien beau parler de la principauté de Chelsea, mais il y a la Chine aussi qui nous préoccupe parce que Michael Kovrig puis Michael Spavor ont été formellement accusés. Là, ce sont deux Canadiens, un ancien diplomate, puis là, formellement accusés après plusieurs mois de détention. Et d'aucuns pensent que c'est en lien avec, bien sûr, ce qui se passe avec le 5G.
Certainement, plusieurs pensent que c'est pour ça, qu'essentiellement les deux Michael, Kovrig et Spavor, ont été pris en otage pour des raisons politiques par le gouvernement chinois. On a demandé d'ailleurs si à Justin Trudeau s'il pensait qu'ils étaient pris en otage. Il n'a pas voulu embarquer de là-dedans. Simplement contenté de dire qu'ils étaient là et qu'ils avaient été arrêtés pour des raisons arbitraires. Mais maintenant, ils font face à des accusations formelles d'espionnage. Et en Chine, lorsqu'on parle d'espionnage, on ne fait pas dans la dentelle si on est trouvé coupable. Donc, les deux Michael qui risquent gros. Certains parlent même de la peine de mort. Alors, c'est là où on est rendu. Alors, qu'est-ce que Justin Trudeau va faire? Ben, il offre son appui et son soutien aux familles.
Il
exprime sa déception devant la décision de la Chine. Va continuer d'utiliser toute une gamme de méthodes pour tenter de les convaincre de relâcher les deux Michael et travailler avec les partenaires internationaux. Ben oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Je pense qu'il sait pas vraiment ce qu'il peut faire. C'est pas comme si le Canada allait envoyer un commando comme dans un film pour aller libérer les deux Michaels, ça arrivera pas. Mais quels sont les leviers du Canada?
Pas une bonne semaine à l'international.
L'ONU, non, pas du tout.
L'ONU puis la Chine.
Ouais. Ouais, puis ajoute à ça l'Iran, hein, il y a eu toute l'histoire de la boîte noire encore qui est toujours en suspens, et là les familles des gens qui ont perdu des passagers lors de l'écrasement de cet avion vraisemblablement abattu par des missiles iraniens, qui ont dit ben les officiels, les enquêteurs iraniens qui sont allés sur l'épave de l'avion ont volé les morts, ont volé les cadavres, ont détroussé, ont vidé. Et c'est les Iraniens là qui ont fait ça là-bas, et le gouvernement du Canada qui semble impuissant, évidemment, à aider les familles rapidement.
Coudon, on fait bien des fois qu'on utilise le mot impuissant avec la politique extérieure du Canada cette semaine. Il y a des pilules pour ça. Écoute, Carl, on va parce que M. Trudeau a d'autres problèmes à l'interne. Il y a des enjeux avec un député, mais avec un ancien ministre également.
Ouais, ben écoutez, c'est le député là, Marwan Tabara, qui a été arrêté. On en a parlé il y a quelques semaines. Il a été arrêté à Guelph, une histoire d'harcèlement. C'était pas clair, mais là on apprend que il y aurait eu des allégations d'harcèlement sexuel contre le député Tabara depuis 2015, après 2015, avant l'élection de 2019, et que malgré ça, malgré les enquêtes, malgré le fait que Justin Trudeau lui-même connaissait la situation. Marwan Tabara a été autorisé à se présenter sous les couleurs libérales. Non seulement ça, après l'élection, a été nommé comme président du Comité des droits humains internationaux. Alors, les gens se posaient des questions. Comment se fait-il que Marwan Tabara malgré ses allégations, malgré ces accusations-là qui ont été portées contre lui, se présenter comme libéral? Ben, Justin Trudeau qui a expliqué qu'il y avait des protocoles en place, des procédures très très rigoureuses, qu'on faisait enquête, mais que malheureusement, il y avait une question de confidentialité puis qu'on pouvait rien dire, et c'est pour ça qu'on n'avait pas dévoilé avant que les journalistes sortent l'histoire.
Ah bon?
Qu'est-il arrivé, rappelle-toi, en 2015, avec la tolérance zéro? Il y a eu le cas des deux députés libéraux lorsque Justin Trudeau était le chef du troisième parti, qui ont été mis à la porte immédiatement, sans autre forme de procès. Mais là, Marwan Tabara, lui, non seulement a pu siéger comme député libéral, a pu se présenter comme candidat libéral, a été nommé comme président d'un comité, malgré ses allégations. Et on parle là d'attouchements, de commentaires qui visaient des membres du personnel féminin, et c'est arrivé à plusieurs reprises, et voilà, on n'a rien fait, on a laissé ça aller, on l'a même donné la green light, la lumière verte pour se présenter pour le Parti libéral. Justin Trudeau, qui a eu beaucoup de difficultés à expliquer, en fait, est resté sur ses lignes de protocoles rigoureux et de confidentialité, là, qui empêchait de parler des détails.
Bon, on va se transporté au Québec ce matin, mise à jour économique. Peut-être que je n'ai pas le bon terme. En tout cas, on nous faisait un portrait économique. On se rappellera, et si tu me permets, Carl, je vais essayer de mettre la table, puis je vais te faire commenter par la suite, d'accord? Alors,
oui, d'accord.
On se rappellera que le budget a été déposé au Québec. Le budget de cette année a été déposé au Québec. Et la plupart des analystes disaient, mais voyons donc, on ne tient pas compte pantoute là-dedans de la COVID. Et pourtant, ouais, il y avait déjà des cas au Québec, etc. Nous avions déposé, le ministre des Finances, Éric Girard, a déposé donc un budget optimiste avec des croissances de 2 % dans le budget et un équilibre budgétaire, puis on dépensait, on dépensait sans compter. 3 jours après, on a eu les premières informations au Québec, et c'est là que ça a commencé à planter. Alors, on est parti d'un budget équilibré avec 2 % de croissance à un budget déficitaire de 15 milliards de dollars, 14,9 pour être précis, avec une contraction de l'économie pour 2020 de 6,5 %. Alors, je comprends que tu peux te tromper, mais là, il s'est trompé de 8,5 %, puis on est parti d'un budget équilibré à un budget déficitaire de tout près de 15 milliards de dollars. Au Québec. Ce qu'il nous propose, c'est un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans. Et ce qu'il dit, c'est que ça ne se fera pas au détriment des services publics ou il n'y aura pas plus de hausse du fardeau fiscal. C'est les deux annonces d'aujourd'hui. Puis l'explication du déficit, ben, c'est essentiellement deux grandes catégories. On a dépensé plus, puis on a eu moins de revenus. Alors, on a dépensé plus en santé, etc., puis on a moins de revenus. L'économie a arrêté, s'est arrêtée. Conséquemment, on n'a pas eu de revenus liés à plein de choses, les taxes de vente, entre autres. Alors, perte de revenus anticipée, augmentation des dépenses non planifiées, mis ensemble, nous amène à un déficit de 14,9 milliards de dollars. Et surtout, là, écoute, une croissance négative de l'économie, c'est quand même pas rien. Contraction de l'économie de 6,5 % en 2020. Qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, ajoute aux 15 milliards de dollars un 4 milliards supplémentaires qui viennent des transferts fédéraux, hein, qui ont augmenté à cause de la pandémie. Si ça n'avait pas été de ça, on serait à 19 milliards de dollars de déficit. Écoute, c'est facile de lancer la pierre à Éric Girard et au gouvernement de la CAQ. Je pense que personne qui aurait pu voir venir ça de cette ampleur-là lorsqu'ils ont préparé le budget au mois de janvier et février. Le problème, et on en a parlé le 10 mars lorsqu'ils ont déposé le budget, on en parlait toi et moi, et je t'avais dit, ce budget-là est déjà passé date. Il n'y avait pas de mesure là-dedans pour gérer la crise qui s'en venait. Il y avait un petit fonds d'urgence de à peu près rien, mais qui venait d'un poste budgétaire déjà prévu pour les urgences. Et c'est effectivement le lendemain, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la pandémie. On n'avait vraiment pas vu venir le train et on n'avait pas ajusté à ce compte-là. Le fédéral a mis les freins sur son budget, a pas rien annoncé, a dit « Attendez, on va réorienter nos priorités fiscales, nos priorités budgétaires au fur et à mesure de la crise. » Est-ce que quelle est la meilleure approche? Je ne le sais pas. Je pense que c'était un problème à l'époque pour le budget du Québec. Puis rappelle-toi, on se tapait dans les mains, là, on se donnait des high five à l'Assemblée nationale. On était tout sourire parce que c'était un budget équilibré. Non seulement ça, on avait un beau surplus puis toutes sortes de dépenses à gauche puis à droite. Et puis là, on arrive avec la solution magique. Mais non seulement on va être capable d'équilibrer le budget, mais on va le faire sans rien couper puis sans rien monter au niveau des impôts et des taxes.
Ouais, puis là, on n'a même pas parlé de la perte de revenus provenant des sociétés d'État, quand je pense notamment à l'Auto-Québec. Là.
Ça, j'ai hâte de voir. Oui, effectivement, l'Auto-Québec, mais pas juste l'Auto-Québec, ouais. Hydro-Québec, c'est parce ça. Qu'évidemment, lorsque 40% de l'économie arrête d'un coup, ouais. Ben il y a des compteurs d'hydro qui arrêtent en même temps.
Oui, puis il y a pas mal moins d'essence qui est consommée, puis etc.
Puis les taxes rentrent moins, etc.
C'est ça. Merci beaucoup, Carl. Puis merci beaucoup pour ta contribution. C'est notre dernière ensemble pour l'instant.
Ben oui.
On a hâte de te retrouver. Merci beaucoup, Carl.
On va peut-être se voir sur un terrain de golf ou deux?
Ben oui, avec plaisir. Ben oui, je suis prêt à faire battre.
Bon été,
oui, oui. Salut, mon Carl. Carl Bélanger. Salut. Bye. Je vais prendre une courte pause au retour, LP.